dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Un méga projet d'intelligence artificielle voit le jour aux États-Unis, Stargate. Tout sera fait, tout sera permis selon la volonté de Donald Trump pour que les États-Unis fassent la course en tête dans ce domaine, d'autant que le développement de l'intelligence artificielle s'affranchit désormais de toute régulation. Avec la spécialiste Christine Balaguer, on parlera IA, technologie et désordre informationnel. Et comment cela se passe chez nous? Quels sont les usages de l'IA dans nos rédactions à France Média Monde? Quelles sont les limites que l'on se fixe? Bruno Flaven, le coordinateur IA de FMM, viendra nous éclairer sur ce point. Enfin, Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI épingle une rumeur très répandue sur les réseaux sociaux à propos de nos téléphones portables. De quoi faire peur? C'est le ressort de la désinformation. Vérification faite, on est plutôt rassuré. Mais tout de suite, notre invité. Christine Balaguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du réseau de chercheurs Good in Tech. C'est un partenariat entre l'Institut Mines Télécom, où vous enseignez, et puis Sciences Po. Alors, il s'agit pour cette initiative de trouver des solutions pour des systèmes d'IA, d'intelligence artificielle responsable. Alors, avant de développer ce point, je vais vous demander une réaction après cette annonce retentissante faite ce mardi à Washington par le président Trump dès sa prise de fonction. Le président américain a présenté un énorme projet d'intelligence artificielle baptisé Stargate, déclaration faite aux côtés de géants de la tech dont Sam Altman, le célèbre patron d'OpenAI.
Ensemble, ces géants de la technologie annoncent la création de Stargate. Alors notez bien ce nom dans vos livres, car je pense que vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. Une nouvelle société américaine qui investira 500 milliards de dollars au minimum dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et le projet va avancer très rapidement, créer plus de 100 000 emplois aux États-Unis presque immédiatement. Cette entreprise monumentale est une déclaration de confiance éclatante dans le potentiel de l'Amérique sous l'égide d'un nouveau président.
Quelle est votre réaction à cette annonce? Stargate, c'est un projet qui suscite plutôt les inquiétudes ou l'enthousiasme tel qu'il est engagé?
Alors, je crois que c'est dans la suite de la stratégie américaine de développer massivement l'intelligence artificielle. Durant son mandat, Joe Biden avait investi sur les semi-conducteurs en particulier. Et donc là, Trump annonce un investissement vraiment considérable, 500 milliards, c'est du jamais vu, sur l'IA future, donc l'IA générative. C'est pour ça que OpenAI porte ce projet. Juste à titre de comparaison, le plan IA pour la France en 2018, c'était 2,5 milliards. Donc, on est sur des sommes absolument considérables. Donc, la stratégie, c'est vraiment de mettre les États-Unis, dans cette guerre contre la Chine aussi, hein, en termes d'intelligence artificielle, de positionner les États-Unis en avance avec cet énorme investissement. Donc, ce sont des centres de données. Et on sait que pour l'IA générative, il faut des centres de données très, très importants, puisque l'IA générative, sont des algorithmes qui se basent sur des données massives. Donc, on est vraiment sur des centres de données très, très importants qui sont basés au Texas. Alors ça, c'est intéressant parce qu'au Texas, dans son discours d'investiture, Trump a aussi dit qu'il allait forer des énergies hydrocarbures, en particulier le pétrole. Et donc, ces centres de données sont très consommateurs d'électricité et d'énergie. Et donc, pourquoi le Texas? Bien parce qu'on peut forer du pétrole, parce qu'il y a des énergies renouvelables, et puis parce qu'il y a aussi du nucléaire. Alors, stratégiquement, ce projet, c'est un projet économique, bien sûr. C'est un projet aussi stratégique en termes de sécurité nationale. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, puisque l'IA est majeure aujourd'hui dans le domaine militaire. Donc, c'est un enjeu de sécurité nationale. Et puis, c'est un enjeu, bien sûr, dans la bagarre économique entre la Chine et les États-Unis.
Et dans le même temps, juste avant cette annonce, on apprenait aussi l'abrogation du décret Biden sur l'IA par Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Alors ça, c'est très important. parce qu'on va se retrouver dans un monde avec plusieurs visions du monde de l'IA. Les États-Unis, à l'heure actuelle, avec l'arrivée de Trump, dérégulent totalement l'intelligence artificielle et globalement est contre toute régulation. On est dans un univers où l'innovation ne sera pas régulée et donc tout type d'IA, même des IA qui peuvent avoir des conséquences sur les citoyens, sur la société, qui peuvent avoir des biais, pourront être développés sans régulation.
Ça veut dire que tout est permis, mais est-ce que du temps de Biden, l'innovation était vraiment bridée ? Parce que c'est quand même sous le mandat Biden que Sam Altman d'OpenAI a développé ChatGPT, qui est cette IA conversationnelle qui a fait fureur.
Absolument. Donc, les États-Unis n'ont pas vraiment régulé l'IA, mais il y avait des réflexions quand même portées par les équipes de Biden autour de « on ne va pas pouvoir tout permettre en termes de développement » et on réfléchit sur les conséquences que peut avoir l'IA sur la société. Et en Europe, on a une vision vraiment complètement différente puisqu'on est dans une régulation européenne qui a été votée en 2024 et qui va se mettre en place d'ici 2026, qui s'appelle l'IA Act, qui, à l'inverse des États-Unis, va classer les applications d'intelligence artificielle en fonction des niveaux de risque. Donc, il y aura des risques inacceptables. Les applications ne seront pas tolérées et autorisées en Europe. Il y aura des applications à haut risque, par exemple le recrutement, par exemple les applications dans le domaine de la santé, qui seront soumises à tout un tas d'obligations techniques et juridiques. Et puis, il y aura tout un tas d'applications d'IA qui n'ont pas de conséquences sur la société et qui, là, pourront être développées sans contrainte.
Mais quelle est la nature du risque, des risques les plus importants, justement ?
Alors, il y a plusieurs types de risques. Je vais prendre des exemples très concrets. Par exemple, les algorithmes qui servent dans le domaine du recrutement. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Eh bien, ce sont des algorithmes qui vont permettre, par exemple, de traiter massivement des CV, de traiter des entretiens vidéo que les candidats font sur Internet, par exemple. Et donc là, il y a plusieurs biais possibles. Il peut y avoir des discriminations raciales, des discriminations selon l'adresse, des discriminations selon aussi le physique, puisque là, ce sont des entretiens vidéo. Donc, tout un tas de discriminations qui posent problème. Et donc, par exemple, en Europe, on demande à ce que ces systèmes soient beaucoup plus transparents pour limiter les biais ou en tout cas mesurer les biais. Aux États-Unis, eh bien, vous avez par exemple un système qui s'appelle HireVue, qui sont des entretiens vidéo pour calculer un score d'employabilité des candidats, qui n'est absolument pas régulé. Un autre exemple est l'IA générative. Alors, l'IA générative, c'est ChatGPT, mais ce sont aussi des produits de Google, comme Gemini par exemple. Ce sont des systèmes qui permettent de générer du contenu, du texte, des images, des vidéos. Et donc, bien sûr, c'est extraordinaire dans certaines applications, mais le risque, c'est de produire des faux contenus, de la fausse information. Ce qu'on va voir apparaître dans les prochaines années avec ce type de système, s'ils sont non régulés, c'est une profusion de fausses informations qui vont être fabriquées par tout un chacun, puisque ça va être très très simple de fabriquer un faux texte, de fausses images et de faux contenus. Donc cette désinformation pose problème aussi pour nos démocraties.
Bien sûr. Par contre, en quoi la régulation peut nuire à l'innovation ? Parce que c'est ça l'argument développé par ceux qui sont des partisans de la dérégulation.
Alors c'est un débat qui est très ancien, ce débat innovation qui limite un peu les capacités de l'entreprise. Il est évident que lorsqu'on régule, on ne peut pas tout faire en termes de services, en termes de produits. Et donc, probablement que, effectivement, OpenAI va pouvoir développer énormément de services. D'ailleurs, à Stargate. L'annonce qui a été faite par Stargate, c'est il faut faire ces centres de données dans la vision d'une application qui va permettre de détecter des cancers en étudiant le flux sanguin. Parce que se développent des systèmes dans le flux sanguin lorsqu'on a un cancer qu'on pourra détecter avec des systèmes d'IA. Donc, il y a toujours ce côté technosolutionniste et cette vision technosolutionniste.
Positif, apparemment.
Positif, voilà. Heureusement, en Europe, ces questions de santé sont aussi très régulées dans le sens où n'importe quelle entreprise ne peut pas accéder directement à des données de santé pour faire tourner ces modèles d'IA. Alors qu'aux États-Unis, bien des sociétés comme Amazon, Google, etc. accèdent à ces données sans contrainte.
Et alors, en Europe, on a eu l'IA Act qui a été voté l'été dernier, au mois d'août, qui n'est pas encore en vigueur. Ça laisse le champ libre aux Américains ?
Ce qui se passe, c'est assez intéressant, c'est que l'IA Act donc, régule l'Europe et les applications d'IA en Europe. Et donc, ce qu'on voit émerger, et ça pose problème quand même au niveau économique, c'est que les nouveaux modèles d'IA ne sont plus développés en Europe, sont développés en dehors de l'Europe parce que l'Europe est régulée. Le problème que ça va poser, c'est comment les entreprises européennes vont pouvoir profiter des innovations qui sont faites ailleurs pour les intégrer dans leur propre système futur.
C'est un petit peu la même chose qui se passe sur la régulation sur les réseaux sociaux. On a le Digital Services Act, le DSA, en Europe, qui, lui, est un peu plus avancé maintenant dans sa mise en œuvre que l'IA Act, et qui fait qu'on se retrouve dans une sorte de bras de fer avec des grandes sociétés américaines.
Alors, le DSA, c'est un peu différent, parce que l'objectif du Digital Services Act, donc qui a été voté en 2023 et qui est actif depuis 2024, c'est de lutter contre des contenus racistes, haineux, problématiques et contre la désinformation. Et donc, l'objectif du DSA, c'est bien sûr d'éviter à des démocraties, d'éviter à des citoyens d'être soumis à des systèmes qui les manipulent et qui manipulent leurs opinions, en particulier les opinions politiques en période d'élection. Donc, ce DSA est paradoxalement une régulation dont on a assez peu parlé dans les médias, mais c'est une régulation qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où la mésinformation et la désinformation est très importante. Selon le rapport du World Economic Forum l'an dernier, le forum de Davos, eh bien, c'est le premier risque mondial, que ce soit pour les entreprises privées, que ce soit pour les gouvernements, pour toute organisation internationale.
Oui, mais Elon Musk, le propriétaire de X, par exemple, estime que tout ça relève de la censure. Même Zuckerberg de Meta, lui aussi, maintenant, estime que tout cela relève de la censure. Ils n'ont pas l'air enclin à se plier à cette réglementation européenne.
Alors, je pense qu'il y a une différence entre Elon Musk et Zuckerberg. Elon Musk défend depuis toujours cette liberté d'expression et donc il prône le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Et donc, selon lui, la liberté d'expression, ça veut dire qu'on peut avoir des propos racistes, avoir des propos très extrêmes sur Internet. Et on sait bien que ces propos, eh bien, ça fait du mal à des personnes, ça touche des personnes. Il peut y avoir aussi des menaces de mort, donc ça peut aller extrêmement loin. Et c'est la raison pour laquelle en Europe, on interdit ce type d'information problématique pour défendre les citoyens face à ces plateformes.
Aux États-Unis, ils disent que les citoyens sont assez grands pour se défendre eux-mêmes.
Ce qui n'est pas le cas. On sait bien que les États-Unis aussi vivent des réactions parfois extrêmement racistes d'un certain nombre de personnes. Et puis, on a des contenus très haineux sur X en particulier. X est devenu un réseau social qui est vraiment extrêmement violent dans ses propos. C'est la raison pour laquelle beaucoup de marques, beaucoup d'institutions se sont retirées de cette plateforme aujourd'hui pour éviter d'être mêlées à ces propos qui sont ces propos extrémistes. Mais ce qui est intéressant sur le DSA, c'est que le DSA permet d'obtenir des plateformes un certain nombre d'éléments, notamment de la transparence sur leur algorithme et en particulier leur algorithme de recommandation de contenu. Ça permet d'accéder à des données des plateformes pour évaluer leur risque systémique. Ça, c'est ce qui est permis pour les chercheurs qui travaillent sur la compréhension de comment fonctionnent les plateformes des réseaux sociaux. Et puis, ça contraint les plateformes à lutter, identifier les fausses informations et à lutter contre la propagation de ces fausses informations qui ont été extrêmement importantes durant le Covid et durant les élections de 2020 aux États-Unis.
Alors, on va écouter la ministre du numérique en France, Clara Chappas, qui rencontrait les représentants des grandes plateformes cette semaine à Paris.
Si la Commission européenne qui mène un certain nombre d'enquêtes sur un certain nombre de plateformes vient prouver que les outils ne sont pas efficaces contre les risques systémiques, qu'une plateforme utiliserait son algorithme pour mettre plus en avant un certain type de contenu, ce qui peut être aussi une des questions que se posent nos concitoyens. Peut-être quand on se connecte sur une plateforme, on voit particulièrement les contenus de son propriétaire. Si son propriétaire, et là je fais référence à la plateforme X, le fait que Elon Musk tienne des propos vraiment très vulgaire sur un certain nombre de dirigeants européens. Je veux dire, ça, c'est pas le cadre du DSA. Chacun s'exprime comme il veut. C'est son projet, ce n'est pas le mien. Il est assez clair, je pense, dans ses opinions. En revanche, si le propriétaire de ce réseau utilise sa plateforme pour donner plus d'exposition à ses points de vue politiques, là, on est dans une infraction claire du DSA.
Alors, ce dont parle la ministre française Clara Chapaz, là, c'est de la manipulation des algorithmes de recommandation, notamment sur les grandes plateformes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément ?
Alors, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui sélectionnent tous les jours sur les comptes de chaque utilisateur d'un réseau social le contenu que va voir cet utilisateur. Alors, quel est le problème soulevé par Clara Chapaz ? C'est le fait que, par exemple, sur X, on a constaté, en tout cas, c'est le principe des plaintes qui sont remontées à l'Union européenne, qu'on voyait beaucoup les contenus d'Elon Musk. Et donc, cet algorithme a été modifié de manière à mettre en avant, de manière extrêmement importante, les contenus d'Elon Musk. Alors, je voudrais dire une chose intéressante, c'est qu'il y a un chercheur américain qui s'appelle Timothy Graham, qui a regardé ce phénomène pendant l'élection américaine de 2024. Et en fait, il a démontré dans un papier de recherche que, effectivement, Elon Musk, pendant la campagne américaine, avait ouvert une visibilité absolument incroyable aux 5 comptes républicains les plus influents, alors qu'il n'avait pas du tout fait la même chose sur les 5 comptes démocrates les plus influents. Là, je parle bien sûr que de la plateforme X. Donc, en Europe, on a ce DSA. Ce DSA repose sur l'idée qu'une plateforme de réseau social un risque systémique, notamment en période électorale. Et donc, lorsque en période électorale, il y a des comptes qui sont poussés plus que d'autres, eh bien là, on est dans une infraction du DSA. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne a, en décembre 2023, commencé une enquête sur X pour étudier l'impact des changements de l'algorithme de X en termes de manipulation de l'opinion des citoyens en Europe. Il y a eu des retours de cette commission qui ont été faits à la plateforme X en juillet dernier. Et donc, comme l'a dit Clara Chapaz, on n'est pas dans cette loi dans un esprit de bannir tout de suite la plateforme, mais on est dans un esprit de, on dit à la plateforme, on présente à la plateforme les problèmes et on demande à la plateforme de se mettre en règle avec le DSA.
Sauf que les élections en Allemagne, c'est dans un petit mois et que, en fait, Elon Musk est déjà en train de faire campagne pour le parti de l'extrême droite allemande. Est-ce qu'on risque pas d'être de toute façon dans l'incapacité de faire face ?
Alors, le DSA quand même permet à la Commission européenne et permet aux Allemands aussi d'avoir des éléments extrêmement concrets pour prouver que cette plateforme est hors la loi si elle s'insère dans l'élection allemande. Donc évidemment là, il y a tout à fait possibilité d'aller suivre la visibilité des comptes d'extrême droite en Allemagne sur X et de regarder si ces comptes ont été fortement amplifiés ou pas.
Mais l'élection donc là, aura déjà eu lieu. Ça
oui,
s'est passé
mais
comme ça pour la Roumanie. Il y a ce décalage entre le temps de la politique et puis le temps de la régulation.
Alors, il est clair qu'il y a toujours ce décalage. Ceci étant, les élections n'ont pas eu lieu. En Roumanie, c'est un peu différent. C'était plutôt sur TikTok et Meta et c'était plutôt de l'ingérence russe qui a fait que le candidat d'extrême droite s'est retrouvé premier au premier tour des élections présidentielles et que du coup, les juges roumains ont annulé ce premier tour de l'élection présidentielle. En Allemagne, l'élection n'a pas encore eu lieu et il y a cette enquête très précise de la Commission européenne sur X, et donc il y a quand même une pression très importante sur la plateforme. Je voudrais juste dire aussi qu'il s'est passé un cas très intéressant au Brésil l'an dernier, où en fait il a été montré par les juges au Brésil que, pareil, la plateforme X avait modifié et amplifié certains contenus d'extrême droite. Et donc au Brésil, la plateforme a été bannie, a été interdite entre août et octobre 2024. Donc on a ce cas, et effectivement, comme l'a dit Clara Chapaz, il y a deux risques pour cette plateforme X. Un, 6% du chiffre d'affaires global, donc ça fait quand même 180 millions d'euros. Alors, évidemment, le niveau de la formule de la fortune d'Elon Musk fait que c'est peut-être pas grand-chose. En même temps, si c'est répétitif sur chaque pays, ça va commencer quand même à peser très lourd. Et le deuxième, c'est la potentielle suspension. Et effectivement, s'il y a ingérence dans des élections et processus électoraux, j'imagine quand même que la Commission européenne prendra un certain nombre de décisions qui peuvent être de ce type.
Merci beaucoup, Christine Balaguer.
Merci à vous.
On va rester sur l'intelligence artificielle dans les dessous de l'Infox avec le coordinateur de l'intelligence artificielle à RFI, Bruno Flaven, dans un instant.
On en parle.
Bonjour Bruno Flaven.
Bonjour, bonjour Sophie.
Alors, la génération d'images ou de textes par l'intelligence artificielle, on passe notre temps dans cette cellule InfoVérif de RFI à pointer des contenus trompeurs fabriqués à partir d'IA générative. Est-ce que l'on peut imaginer que RFI elle-même produise ce type de contenu généré par l'IA ?
Alors, la réponse est non. Et catégoriquement non, c'est inscrit dans la charte, il n'y a pas de d'IA générative, que ce soit du texte ou de l'image, et ce, pour toutes les enseignes de FMM, hein, RFI, France 24, MCD, il est clairement, c'est un des points essentiels qui est apparu très rapidement dans les conversations, la validation humaine. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement l'équation, qui est assez simple, c'est humain, machine, humain.
Vous avez mentionné la charte. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est-à-dire qu'en fait, le recours aux IA par les journalistes n'est pas totalement proscrit, mais très sérieusement encadré, c'est ça ?
Tout à fait. On ne peut pas empêcher les usages de prendre pied, et on est des individus comme tout un chacun, tout le monde parle d'IA. Il est clair que dans un cadre professionnel, la première chose, je le disais, c'est la validation éditoriale qui est obligatoire pour tout type de génération d'IA, c'est-à-dire que ça peut servir d'assistance, c'est pas un remplacement, c'est une proposition, mais ensuite l'être humain intervient et valide. Ça, c'est le premier point. L'autre point très important qui figure dans cette charte, c'est la sécurité, la confidentialité des données. Donc prudence avec ces fameux outils hein, dont on parle tout le temps. Et la dernière chose, c'est une transparence totale. On revient un petit peu à la... Tous ces éléments sont liés. Transparence vis-à-vis des équipes, donc des gens qui produisent l'information, et vis-à-vis du public.
Et alors, quelles sont les tâches pour lesquelles on peut utiliser l'IA sans prendre trop de risques ?
Alors, ça dépend de la nature du contenu que vous utilisez. Actuellement, il y a des recommandations qui sont données, à la fois pour proscrire certains outils et aussi pour qualifier le niveau de sécurité des documents. Il est clair que majoritairement, on cherche surtout à lever des irritants sur des petites choses.
Qu'est-ce que ça veut dire, lever des irritants ?
Lever des irritants, c'est des tâches chronophages que vous accomplissez quotidiennement.
Exemple, transcrire une très longue interview ?
Transcrire une très longue interview qui va servir peut-être à un article ou à quelque chose. Ou éventuellement faire ce résumé de cette transcription.
Mais donc, même ça, ça nécessite ensuite un retour de l'humain en mode vérification.
Tout à fait. Et ça inclut même un retour de l'humain et aussi quand même l'assurance qu'on n'est pas en train d'entraîner un modèle, un autre modèle, puisqu'on divulgue, ça équivaut à une publication. Donc l'importance était marquée sur, là, quand on parle de confidentialité et sécurité, c'est de se dire soit on prend un prestataire qui nous engage à ne pas entraîner son modèle avec le contenu qu'on va lui fournir, soit carrément on essaye soi-même d'opérer nos propres modèles pour faire des résumés. Et dans ces cas-là, ça reste confidentiel, puisque ça reste sécurisé, ça reste siloté.
Ça veut dire que RFI se met en position de pouvoir utiliser des intelligences artificielles à certains moments de sa production, mais offre une sorte de garantie du produit final.
Oui, tout à fait. C'est la légitimité ou la curation ou la responsabilité en tant que média. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas se priver des gains de productivité éventuellement que l'IA peut amener. Voilà. Ce qui est très important, c'est de préserver une forme de transparence et de loyauté vis-à-vis de l'ensemble des équipes et aussi vis-à-vis des audiences.
L'un des écueils principaux des IA aussi, ce sont les biais cognitifs, les biais de confirmation par exemple.
Tout à fait, c'est la bulle cognitive bien connue ou le biais cognitif, c'est-à-dire que la plupart des modèles ont été entraînés sur des données et on ne sait pas nécessairement quelles sont ces données et comme on dit souvent, on est le produit de nos lectures. Eh bien, le modèle c'est pareil, il est le produit de ce qu'on lui a donné à lire ou à ingurgiter ou à manger. Donc naturellement, on retrouve les mêmes composantes. Et parfois, elles sont surpondérées dans la mesure où si vous prenez un échantillon de texte très orienté, vous allez probablement obtenir du modèle des opinions très orientées.
Et très bientôt, il y a tout un sommet sur les intelligences artificielles qui va se dérouler à Paris. J'imagine qu'on va beaucoup en entendre parler sur RFI.
Ah oui, probablement. De toute façon, c'est le sujet, semble-t-il, de 2025. Oui, c'est sûr. Il y a des changements et les changements sont extrêmement rapides. Et on voit que l'agrégation de différents usages est de plus en plus forte et de plus en plus, un très grand nombre de modèles apparaissent pour des tâches spécifiques. L'important, c'est de se retrouver dans ces modèles en se disant, est-ce que le modèle est susceptible de m'apporter quelque chose et de ne pas détruire la valeur de ce que j'amène auparavant quand je le faisais manuellement? C'est ça qui est très important.
Merci beaucoup, Bruno Flaven.
Merci, Sophie.
Bonsoir, Grégory Genevrier.
Bonsoir à tous.
Vous allez nous parler d'une vidéo terrible qui circule sur les réseaux sociaux, associée à des commentaires selon lesquels il serait dangereux d'utiliser son téléphone portable à côté d'une bouteille de gaz. Le smartphone serait à l'origine d'un grave accident. Cette croyance populaire réapparaît régulièrement au gré de différents faits divers. Vous avez donc enquêté sur le sujet.
Oui, c'est un auditeur tchadien qui nous a alerté sur la circulation de ces images choquantes. On y voit plusieurs adultes et des enfants gravement brûlés arriver dans la salle d'attente d'un hôpital. Le message qui accompagne cette vidéo l'affirme, je cite, « Évitons le téléphone à côté de la bouteille de gaz, regardez cette famille en sang jusqu'aux enfants ». À en croire le drapeau présent dans cette légende, la scène se passerait au Cameroun.
Alors, vérification faite, que montre réellement cette vidéo?
Pour le savoir, nous avons d'abord cherché à la géolocaliser en s'appuyant sur une plaque d'immatriculation visible sur un véhicule. La combinaison des chiffres et des lettres et les éléments graphiques correspondent aux plaques de l'état de Rivers, dans le sud du Nigeria. En faisant une recherche avec les mots-clés « gaz »,« explosion » et « reverse », on retrouve bien la trace de cette vidéo dans la presse nigériane. On y apprend que ces images font suite à une explosion mortelle chez un vendeur de gaz à Port Harcourt dans le quartier d'Oroasi le 4 janvier dernier, ce que nous a confirmé notre rédaction à Lagos.
Et cette explosion est-elle finalement liée à l'utilisation d'un téléphone portable?
Non, selon plusieurs témoignages, un homme aurait simplement tenté de souder une bouteille de gaz qui fuyait, provoquant involontairement une explosion en chaîne. Le dernier bilan fait état de 5 morts et plus d'une dizaine de blessés. La légende qui circule sur WhatsApp est donc mensongère.
Mais sur le fond, y a-t-il un danger à utiliser son téléphone portable à côté d'une bouteille de gaz, comme c'est dit dans ces vidéos?
Eh bien, pour y répondre à cette question, il faut d'abord préciser comment se produit une explosion. Concrètement, pour qu'il y ait une atmosphère explosive, ce que les experts appellent une ATEX, il faut un combustible, un gaz par exemple, et un comburant, l'oxygène de l'air. Dans certaines proportions, le mélange peut exploser, mais il faut encore une source d'inflammation, une étincelle ou une flamme, par exemple. Olivier Cotin est le responsable de l'unité atmosphère explosive ATEX à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
Alors, si les conditions sont normales, c'est-à-dire que la bouteille est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de danger immédiat à utiliser son téléphone à proximité de cette bouteille. Il faudrait donc, pour qu'il y ait un danger, un risque, il faudrait qu'il y ait effectivement une fuite. Et là, on pourrait effectivement, dans un milieu confiné, créer une ATEX.
Pour qu'une explosion se produise, il faut donc une fuite de gaz et un téléphone dysfonctionnel, puisqu'un smartphone en bon état ne génère ni chaleur excessive ni étincelle. En résumé, le risque zéro n'existe pas, mais si votre bouteille de gaz ne fuit pas et que votre téléphone fonctionne correctement, vous n'avez pas de souci à vous faire.
Merci Grégory, cette chronique est à retrouver sur notre site en tapant Infovérif RFI. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Valentin Vanner à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tout est sur le site RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Pour la suite, je vous laisse avec Philippe Le Caplin. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie Malibaud. C'était donc les dessous de l'Infox. Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, ce sera Afrique Soir, présenté par Zéphirin Kouadio, avec au sommaire la reprise des combats dans l'est de la République démocratique du Congo.
Eh oui, combat entre l'armée appuyée par ses alliés, le M23 soutenu par des militaires rwandais. Depuis hier, les affrontements se sont concentrés dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Et depuis ce matin, il y a aussi des combats au nord de la capitale provinciale. Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa ce vendredi.
Et j'ajoute que les ambassades américaines et françaises en RDC et le ministère des Affaires étrangères britannique appellent leurs ressortissants à quitter Goma. Donc cette capitale capitale de l'est du pays, encerclée par les combats. Et puis ce nouvel appel à un retour à l'ordre constitutionnel au Mali.
Et oui, appel lancé par les partis Yelema, Adema, Parena, M5-RFP, Malikoura et d'autres formations politiques. Dans un communiqué, les partis signataires demandent la tenue d'élections pour mettre un terme à la période de transition en place depuis un peu plus de 4 ans. C'est le dossier de cette édition.
Au Burkina Faso, le parti Sens demande la libération de son leader.
Et oui, le célèbre avocat et président du parti est en détention depuis un an dans une prison militaire de Ouagadougou. Le 29 mai dernier, Guy Hervé Kam a été inculpé pour complot et association de malfaiteurs. Sa formation politique dénonce une détention illégale et demande sa libération. Nous entendrons le secrétaire national de ce parti.
Et ce sera donc dans Afrique Soir à 18h30 en temps universel.